en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, pour une coupole, la diffusion d'une émission en séance exceptionnelle, une grande coupole, séance solennelle de remise des Grands Prix de l'Institut de France. Vous le savez, créée en 1795, le 25 octobre 1795 précisément, situé quai de Conti à Paris en face du Louvre, de l'autre côté de la Seine, l'Institut est en quelque sorte le Parlement du monde savant. Il réunit tout ce que la France compte d'intellectuels, philosophes, chercheurs et scientifiques. Et deux missions lui sont particulièrement assignées. Participer au perfectionnement des arts et des sciences, mais aussi gérer le millier de dons, legs et fondations dont il est dépositaire. Et chaque année, l'Institut de France récompense ou distribue des prix de fondations précisément, et c'est le cas cet après-midi à l'Institut de France sous la coupole, séance solennelle. Dans un instant, nous rejoindrons cette coupole, une séance présidée par Jean Prodromides, président de l'Institut, président de l'Académie des Beaux-Arts. Nous entendons actuellement les tambours de la garde républicaine qui accueille les académiciens qui, selon le rite, descendent de la bibliothèque Mazarine pour se rendre sous la coupole. Alors avant de céder l'antenne à cette séance exceptionnelle, sachez que cette séance sera ouverte dans quelques instants par Monsieur Pierre Messmer, chancelier de l'Institut de France. Ensuite, les différents lauréats recevront leur prix des fondations. Tout d'abord, le mécénat scientifique des fondations de l'Institut Communication prononcé par Madame Nicole Ledouarin, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Ensuite, proclamation des lauréats avec remise du prix scientifique de la fondation Le Foulon de la Lande au professeur Harold Dvorak et au docteur Napoléon Ferrara et Mosé Juda Folkman par Monsieur Alain Carpentier, de l'Académie des sciences. Ensuite, remise du prix scientifique de la Fondation Louis D au professeur David Bartel et Ronald Plasterk pour François Gros. François Gros, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences. Ensuite, aura lieu la remise du prix international exceptionnel Cino Del Duca de la Fondation Simone et Cino Del Duca au professeur Massimo Ingiuccio par Édouard Brézin, qui préside l'Académie des sciences. Ensuite, nous assisterons à la remise du prix scientifique de la Fondation Énergie au professeur Patrice Tranbanui et Guy Richardson, prix remis par Jean Rosa de l'Académie des sciences. Et puis au chapitre du mécénat humanitaire et culturel des fondations de l'Institut, M. Gabriel Debreuil s'exprimera, Gabriel Debreuil de l'Académie française et de l'Académie des sciences morales et politiques, avant la proclamation des lauréats de ces grands prix humanitaires et culturels, remis notamment par Michel Albert et Mme Hélène Carrère-Dancos, Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, et Mme Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuel de l'Académie française. Voilà donc pour ce programme. Nous sommes en direct sur Canal Académie depuis la coupole de l'Institut de France pour cette séance solennelle de remise des Grands Prix. Je laisse tout de suite la parole à la garde républicaine avant d'entendre M. Pierre Messmer introduire cette séance. Pierre Messmer, chancelier de l'Institut. Je rappelle que vous écoutez Canal Académie, la première radio académique francophone au monde, et nous nous apprêtons dans un instant à rejoindre la coupole de l'Institut de France pour une grande séance, séance solennelle de remise des grands prix de l'Institut de France, une séance qui sera ouverte dans un instant par monsieur le chancelier de l'Institut de France, Pierre Messmer, séance présidée par Jean Prodromides, président de l'Institut et président de l'Académie des Beaux-Arts. Plusieurs prix récompensant aujourd'hui le travail de scientifiques, d'humanitaires et de gens de culture. Nous aurons l'occasion d'écouter les différentes interventions lors de cette retransmission en direct de la coupole séance solennelle de remise des grands prix à l'Institut de France le mercredi 15 juin 2005.
Monsieur le ministre, messieurs les ambassadeurs, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, mes chers confrères, cette séance solennelle sous la coupole a été organisée dans le cadre des commémorations prévues pour l'installation par Napoléon Ier de l'Institut de France dans l'ancien collège des Quatre Nations, fondé grâce au cardinal Mazarin. Monsieur Pierre Messmer, chancelier de l'Institut, a tenu à faire connaître les importantes opérations de mécénat rendues possibles grâce aux nouvelles fondations à caractère scientifique, humanitaire et culturel abritées à l'Institut à côté des fondations patrimoniales habituelles. Cette séance est aussi un hommage et un témoignage de gratitude et de reconnaissance envers les mécènes, tous les mécènes, ceux dont il sera question aujourd'hui pour la proclamation de leur grand prix, mais aussi les autres que nous ne pourrons pas tous citer, mais qui accompagnent aussi avec générosité l'Institut de France dans l'exercice de ses missions. Après l'ouverture de la séance par le chancelier, seront proclamés les noms des lauréats des grands prix scientifiques et des grands prix humanitaires et culturels par les présidents des jurys ayant délibéré sur les candidatures réunies. Sans plus attendre, je donne la parole à Monsieur Pierre Messmer, chancelier de l'Institut de France.
Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, mesdames, messieurs, le 3 Brumaire de l'an 4, lors d'une de ses dernières séances, la Convention adopta le rapport de Donou qui créait l'Institut de France. Défini, je cite son rapport, comme l'abrégé du monde savant, le corps représentant de la République des lettres. Cet institut, écrit l'auteur, manifestera toutes les découvertes pour que celle qui aura le plus approché la perfection exerce le libre ascendant de l'estime et devienne universelle parce qu'elle sera sentie la meilleure. J'arrête ici ma citation. Les créateurs de l'Institut de France envisageaient sans doute de le doter richement par des fonds publics afin de satisfaire une si noble ambition. L'histoire plus que bicentenaire de notre institution a prouvé que nos missions qui servent l'intérêt public et nous ont été assignés par l'État, ont été accomplis avant tout grâce à la générosité de donateurs privés. C'est le concours heureux de particuliers qui procure à l'Institut les moyens d'influence et d'action. C'est grâce à leur générosité qu'il peut, en toute indépendance, œuvrer utilement dans les domaines de la connaissance et des arts. Cette tradition est ancienne. S'il fallait lui donner un point d'ancrage, nous le trouverions dans la création, dès 1654, à l'Académie française, d'un prix d'éloquence, bientôt suivi d'un prix de poésie à l'initiative de Caisse de Balzac. Après la période révolutionnaire, l'Institut et les académies, bénéficiaires d'une personnalité civile distincte de celle de l'État. Cette situation particulière allait permettre, au sein des 6 entités qui sont logées dans ce palais, le développement de nombreuses fondations abritées. Qu'entend-on par ce terme ? Des fondations qui, sans avoir de personnalité morale distincte des entités qui les abritent, jouissent néanmoins d'une complète autonomie financière et d'action. Cette formule d'une grande souplesse a attiré, hier comme aujourd'hui, de nombreux donateurs vers le Quai de Conti. Le mécénat, orienté vers l'Institut et les académies, est de 3 sortes. Un mécénat de type patrimonial, un mécénat humanitaire et un mécénat culturel et scientifique. Traditionnel, le mécénat patrimonial est sans doute le plus impressionnant et son archétype reste la donation du domaine de Chantilly que le duc d'Aumale fit à l'Institut en 1886. Dans un testament holographe de 1884, il exprime sa volonté de conserver tout cet ensemble qui forme comme un monument complet et varié de l'art français en le remettant, je le cite, à un corps illustre qui échappe à l'esprit de faction, conservant son indépendance au milieu des fluctuations politiques. L'Institut devint ainsi propriétaire d'un musée dont la bibliothèque possède un des manuscrits les plus célèbres au monde, les trésors du duc de Berry. En respectant les conditions draconiennes posées par le duc pour la gestion du domaine et malgré le coût élevé de son entretien, l'Institut n'a cessé d'accomplir scrupuleusement la mission qui lui avait été assignée voici presque 120 ans. Fort heureusement, un grand mécène s'est proposé récemment pour l'aider dans sa tâche. En 1913, ce fut l'abbaye de Chaly et un hôtel particulier du boulevard Haussmann, avec toutes les collections regroupées par Édouard André et Nelly Jacquemart, qui rejoignirent le patrimoine de l'Institut. Grâce à une gestion innovante, passant par une délégation de services publics pour sa gestion commerciale, le musée Jacquemart-André, le seul musée ouvert 365, ce musée français ouvert 365 jours par an, est devenu l'une des institutions culturelles les plus populaires à Paris. Sans multiplier les exemples, je citerai les fleurons de notre patrimoine, le château de Langeais, légué par Jacques Siegfried, la villa Kyrillos à Beaulieu-sur-Mer, légué par Théodore Reynac, le manoir de Kerazan à Loctudy, dans le Finistère, légué par Joseph Astor, l'hôtel d'Aune-Thiers et sa bibliothèque, place Saint-Georges à Paris, la maison de l'Institut de France à Londres, don du baron Edmond Rothschild. Comment oublier par ailleurs les dons d'immeubles reçus par les académies, le château de Castres, propriété de l'Académie française, la maison de Pasteur à Arbois et le château d'Abadia à Andailles, propriété de l'Académie des sciences, et surtout le remarquable patrimoine dont l'Académie des beaux-arts a la charge et qui regroupe le musée Marmottan, la maison de Monet à Chiverny, la villa Ifrussi de Rothschild dans le département des Alpes-Maritimes. Une telle énumération pourrait donner le tournis, et elle est à l'origine de la légende de la fortune de l'Institut qui, à partir des années 1890, après la donation du duc d'Aumale, et pendant quelques décennies, fut, pour reprendre un terme du jargon journalistique à la mode, un marronnier de la presse populaire. C'est méconnaître notre institution et la nature des fondations que nous abritons. Si l'Institut a les mains pleines, c'est pour les ouvrir. Fort de la confiance que lui font de nombreux mécènes, l'Institut devient mécène à son tour et en leur nom. Ce qui est vrai des fondations humanitaires dont la destination est le public l'est avec plus d'évidence encore pour les fondations scientifiques et culturelles. Elles existent en grand nombre à l'Institut et dans les académies. Et leur fonctionnement est simple. Par don ou par legs, le fondateur attribue à l'Institut ou à une académie une dotation annuelle ou un capital dont les revenus doivent servir à l'accomplissement d'une charge qui peut être de toute nature pour peu qu'elle corresponde à nos missions et qu'elle reçoive l'agrément du Conseil d'État. Traditionnellement, les charges ont été de deux types. La distribution de prix attribués à une œuvre ou à son auteur et ce qu'on appelait au XIXe siècle des prix de vertu et de façon plus moderne, des aides sociales. Les fondations anciennes ont subi au cours de l'histoire une érosion tragique de leur capital. Parmi les nombreux exemples, je n'en citerai qu'un seul, la fondation de l'Académie Rossi, de l'Académie des sciences morales et politiques, créée en mémoire de l'économiste Pellegrino Rossi, membre de cette compagnie dans les années 1840. Cette fondation distribuait, avant la Première Guerre mondiale, un prix annuel de 4000 francs or, somme qui n'était pas négligeable pour l'époque et qui correspondrait à environ 65 000 francs de l'an 2000. Mais cette année-là, la récompense n'était plus qu'une simple médaille. Par provocation, je parle quelquefois à ce propos de médailles en chocolat, même si nous devons les attribuer en exécution des volontés des fondateurs et pour marquer l'estime publique portée à des écrivains et des savants de grand mérite. Mais ces médailles ne sont pas à la hauteur des ambitions de l'Institut pour agir en faveur du bien commun, car le but ultime d'une fondation reste la métamorphose d'un avoir en pouvoir, le pouvoir de faire quelque chose. Comment en est-on arrivé là ? Doit-on mettre en cause la gestion de nos prédécesseurs? Certainement non. Lorsqu'il était constitué de valeurs mobilières, le capital des anciennes fondations a subi à partir de 1920, des dévaluations répétées, d'autant plus désastreuses que des règlements absurdes imposaient à l'Institut de placer tous ses capitaux en emprunt d'État. C'est seulement au milieu des années 1960, après l'élection de Jacques Rueff au poste de chancelier de l'Institut en 1964, que s'opéra le renouveau. Grâce au soutien du général de Gaulle et à la bienveillance de Georges Pompidou envers le Quai Conti, Jacques Rueff obtint de placer librement les fonds de l'Institut. En janvier 1980, sur une proposition de M. Édouard Bollefousse, alors chancelier, la commission administrative décidait la gestion commune de tous nos biens, cette réforme technique ne remettant nullement en cause le principe sacré de l'autonomie de chaque fondation, mais permettant une gestion plus professionnelle et plus dynamique de notre fortune. Remise en confiance, les fondateurs qui s'étaient éloignés de l'Institut ne tardèrent pas à revenir vers lui en raison de la liberté, de la sécurité et de l'expertise qu'il n'avait jamais cessé de proposer, ainsi que des garanties assurées par le contrôle de la Cour des comptes. Beaucoup de ces nouveaux fondateurs sont ici aujourd'hui. Je garderai dans mon cœur le nom et le visage de chacun d'eux, par respect pour la discrétion dont ils font preuve dans leur générosité, et pour ne pas avoir à dire en public l'amitié personnelle qui s'est créée entre eux et moi depuis que nous nous connaissons. Je les salue d'autant plus respectueusement et affectueusement que sans eux, cette séance solennelle n'aurait simplement pas eu lieu. Ce sont eux qui nous rassemblent cet après-midi. Grâce à eux, l'Institut, qui décernait jusqu'alors des prix modestes, voire symboliques, dont la valeur ne dépassait pas au total 400 000 euros en 1998, distribue cette année 2005 sous forme de prix, de bourses ou de subventions 12 millions d'euros, 30 fois plus. Il s'agit d'une véritable révolution dont les effets commencent à peine à se faire sentir. Car parmi les prix que nous attribuons et dont mes confrères vous feront connaître tout à l'heure les lauréats, le montant de certains d'entre eux atteint, sinon dépasse, le niveau des prix les plus élevés dans le monde et dont le prix Nobel reste la référence. À ce niveau, l'Institut de France est devenu l'un des principaux mécènes de notre pays et déjà des prix Nobel français et étrangers viennent siéger dans nos jurys. Cette révolution s'est accompagnée d'un changement, d'une évolution des buts poursuivie par les fondateurs qui privilégient désormais l'aide humanitaire et la recherche scientifique, en particulier dans le domaine médical. On retrouve ici deux grands thèmes qui habite l'opinion publique, orientée de plus en plus vers le soulagement de la souffrance humaine, que celle-ci soit physique ou qu'elle soit sociale. L'État, longtemps réticent face au développement d'initiatives privées qui semblaient lui faire concurrence, est à présent enclin à les encourager. La loi sur le mécénat, votée en 2003, assouplit les règles de création et de fonctionnement, ainsi que la fiscalité des fondations. Leur utilité sociale est enfin reconnue. Cette prise de conscience est salutaire, car les fondations sont appelées à jouer un rôle grandissant dans notre pays, dont l'économie est grevée du poids des déficits publics. L'État ne peut tout faire, ni tout financer, et même si ses financements doivent parfois s'accroître, en particulier dans le domaine de la recherche, monsieur le ministre. Cette inaptitude à tout faire ne tient pas seulement à des considérations financières. La demande d'une aide publique met en branle un lourd mécanisme bureaucratique en raison de la multitude des contrôles nécessaires avant même son attribution. Par ailleurs, ces aides vont principalement à ceux qui ont déjà fait leurs preuves, favorisant notamment les laboratoires installés qui sont souvent excellents, mais pas toujours les plus susceptibles d'innovation. En regard, le mécénat privé est plus souple, moins routinier, même s'il ne s'exerce pas sans contrôle. Il peut prendre des risques là où l'État est contraint d'agir avec prudence et circonspection. Nos fondations peuvent donc décider plus vite, de manière plus diversifiée et plus indépendante, et favoriser l'éclosion de talents quand l'aide publique se doit de soutenir les structures lourdes. Pour illustrer mon propos, je pourrais citer l'exemple d'initiatives récentes que nous avons prises et qui ont commencé déjà à porter leurs fruits. Chacune des fondations, qu'elle soit représentée aujourd'hui par ses fondateurs, que ses revenus proviennent d'une donation, d'un legs ou de l'usufruit de valeurs mobilières, chacune peut être fière de l'œuvre accomplie ces dernières années. Cette liberté d'esprit et d'action, cette gestion précise et désintéressée ne sont possibles qu'à l'Institut de France. Pourquoi, me direz-vous, ne serais-je pas en train de faire preuve de quelque arrogance, de mauvaise aloi? Pas du tout, car l'Institut de France recèle une richesse que vous ne trouvez pas ailleurs, ce sont ses académiciens. Leur qualité d'expertise, leur rigueur intellectuelle, leur dévouement au service de l'intérêt général, leur réputation internationale sont les conditions sine qua non de cette liberté, car il n'est pas de liberté sans responsabilité. Qu'il me soit permis de saluer ici mes confrères des 5 académies. Sans eux, nous n'aurions jamais pu entreprendre ni réaliser ce que nous célébrons aujourd'hui, la rénovation du mécénat de l'Institut de France. Je l'ai dit, il s'agit d'une révolution. En vous réunissant pour cette séance solennelle, la première du genre, mais qui sera désormais annuelle, j'ai voulu marquer d'une pierre blanche une origine, même si, comme toute origine, elle est redevable du travail de tous ses devanciers. Je vous remercie.
Je remercie le chancelier. La parole est maintenant à Madame Nicole Ledouarin, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, qui va nous entretenir du mécénat scientifique des fondations de l'Institut. Madame.
Le XXe siècle est caractérisé par des avancées spectaculaires dans le domaine des sciences et de leurs applications. Le développement des mathématiques, de l'informatique, de la physique, de la chimie, des sciences de la Terre et de l'espace, ainsi que leurs interactions entre elles et avec la biologie, ont profondément modifié la vie des hommes et leur rapport avec leur environnement. S'il est vrai que les progrès dans ces domaines ont aussi produit des nuisances qu'il convient de corriger, ils ont constitué dans leur ensemble des avancées remarquables pour la condition humaine. Les sciences de la vie méritent à cet égard une mention particulière, car elles ont connu depuis les années 1950 un élan sans précédent dans l'histoire. Depuis qu'a été révélée la nature chimique du patrimoine héréditaire porté par chacune de nos cellules et fidèlement transmis de génération en génération, une nouvelle ère a commencé. Il est devenu possible pour les chercheurs d'avoir accès aux gènes, c'est-à-dire au centre de commande du vivant. Toutes les branches de la biologie en ont profité de ces nouvelles connaissances et des outils qui en sont dérivés, la médecine en tout premier lieu. Ainsi, dans les pays les plus favorisés, ceux où se fait la recherche, les progrès scientifiques se sont accompagnés de l'amélioration de l'état de santé des individus et d'une augmentation significative de leur longévité. Tout indique que ce mouvement scientifique se prolongera et s'amplifiera au cours du XXIe siècle. Nous pouvons nous en féliciter. Mais il faut aussi savoir que le coût de la recherche va en s'accroissant. Il est vrai que les découvertes débouchent sur des applications technologiques qui génèrent des profits. On pourrait donc penser que globalement, la science devrait être à même de s'autofinancer. Il n'en est rien, car la plupart des très grandes percées scientifiques, celles qui ouvrent des domaines vraiment nouveaux, qui sont à l'origine des technologies révolutionnaires, sont le résultat de recherches qui, au départ, étaient sans visée appliquée. L'expérience passée montre qu'elles ont été souvent le fait de chercheurs ou de groupes isolés dont le but était avant tout l'accroissement désintéressé du savoir. Les exemples en sont nombreux. Par définition, l'inconnu n'est pas prévisible et une planification de la recherche en vue de ses applications ne peut en concerner qu'un secteur limité. La recherche de base, appelée aussi recherche fondamentale, doit être libre. Elle a de tout temps dû être entretenue et protégée d'une manière désintéressée, du moins sans que des profits n'en soient attendus à court terme. C'est pourquoi, en particulier dans notre pays, elle a été prise en charge par l'État. Cependant, l'ampleur de la recherche moderne et l'augmentation spectaculaire de son pouvoir heuristique entraînent une augmentation considérable de son coût. Le support que peut ou veut lui apporter l'État n'est plus à la hauteur de ses besoins et de ses ambitions. Dans les pays anglo-saxons, l'apport financier venant de particuliers fortunés d'entreprises ou de collectes touchant le grand nombre, ont depuis longtemps joué un rôle majeur dans le financement de la recherche. Il faut citer des fonds privés comme le Howard Hughes Medical Institute aux États-Unis et le Wellcome Trust, une fondation créée par la compagnie pharmaceutique du même nom, qui distribue chaque année en Angleterre des sommes qui atteignent le montant des crédits institutionnels dédiés à la recherche biomédicale. Ces fondations privées sont si puissantes qu'elles sont en mesure de mener une véritable politique de recherche par le choix des domaines qu'elles financent, d'une part, et parce qu'elles optent clairement pour l'élitisme en supportant d'une manière exclusive les chercheurs et les programmes les plus performants, comme on le fait dans les clubs sportifs pour sélectionner les équipes qui gagnent. C'est avec une grande satisfaction que nous, chercheurs, voyons le mécénat scientifique se développer dans notre pays. Mesdames, Messieurs les donateurs, qui avaient confié à l'Institut de France et aux académies qui lui sont associées le soin de gérer votre généreuse action de mécénat, je crois que vous avez fait le bon choix, car nous poursuivons les buts que vous souhaitez. En effet, selon la formule très heureuse qu'a employée il y a un instant M. le chancelier Messmer, nous considérons avec lui que le but d'une fondation reste la métamorphose d'un avoir en pouvoir. L'avoir, chez un chercheur, c'est son projet, c'est-à-dire le résultat de ce qu'il sait et de ce qu'il veut découvrir. Pour le mener à bien, il lui faut des moyens. Les principes de gestion appliqués aux fondations abritées à l'Institut de France sont basés sur deux mots-clés, rigueur et efficacité. La rigueur. Les jurys d'attribution des prix, bourses et subventions mettent à profit l'expertise scientifique exceptionnelle rassemblée à l'Académie des sciences. Elles ne se bornent pas à cela. Les jurys sont constitués non seulement de membres de l'Académie, mais aussi de savants étrangers, formant un ensemble d'experts internationaux de haut niveau, certains d'entre eux ayant déjà été couronnés par le prix Nobel. Une des règles absolues du fonctionnement est qu'aucun membre de l'Académie ne peut bénéficier d'une dotation, quelle qu'elle soit, venant de ses fondations. L'efficacité. Les choix réalisés, vous en jugerez en écoutant mes confrères, qui vous liront le palmarès et les raisons d'attribution des plus grands prix, sont basés sur l'excellence des travaux déjà réalisés et des perspectives de recherche présentées par les candidats. Chaque délibération des jurys est précédée d'un large appel à candidature au niveau national ou international selon les vœux des fondateurs qui sont en toutes circonstances scrupuleusement respectés. Cet appel à candidature est soigneusement ciblé et atteint les grandes institutions de recherche et les responsables des grands laboratoires. Les actions poursuivies sont de plusieurs sortes. Elles peuvent être l'attribution de prix prestigieux, dont les montants pour certains sont parmi les plus élevés du monde, ou de subventions destinées à développer des programmes bien définis correspondant à des domaines particulièrement actuels et prometteurs de la recherche. Les bourses, délivrées par certaines fondations, sont une aide à la recherche française dont il faut souligner l'importance. Dans le contexte défavorable de l'emploi scientifique qui prévaut en France depuis plusieurs années, il est à craindre qu'une génération de jeunes scientifiques ne soit sacrifiée ou fasse le choix d'aller travailler dans d'autres pays qu'ils jugeront plus favorables à l'épanouissement de leurs talents. Comme l'a souligné M. le chancelier, le nombre de fondations abritées par l'Institut de France s'est notablement accru au cours de ces dernières années. Leurs actions au bénéfice de la recherche s'exercent de manière différente selon les cas. Elles peuvent être dédiées à une discipline et même à un sujet bien défini ou avoir des objectifs plus généraux. Je citerai dans la première catégorie la fondation créée en 1999 par le docteur Yves Cottrel, qui a consacré sa vie et a apporté des améliorations importantes à la correction des anomalies congénitales de la colonne vertébrale. Cette fondation finance au niveau international des projets de recherche de pointe dans ce domaine précis. En 2005, 4 projets portant sur des pathologies rachidiennes ont été sélectionnés. Il s'ajoute aux 15 projets déjà en cours. La Fondation Dalloz, créée en 2002, délivre un prix destiné à soutenir des recherches en ophtalmologie. La Fondation Sophie Germain, fondée en 2002, remet sur proposition de l'Académie des sciences un prix de mathématiques à de jeunes chercheurs, ainsi que des bourses aux élèves du lycée Sophie Germain à Paris. La Fondation Le Foulon de la Landre, créée en 2000, est dédiée à la recherche dans le domaine cardiovasculaire. Celui-ci est d'une très grande importance en santé publique, puisque les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité des pays développés. Cette fondation attribue un grand prix annuel à une ou des personnalités dont les travaux ont eu un impact exceptionnel sur la compréhension des mécanismes qui sous-tendent le fonctionnement du cœur et des vaisseaux. Le professeur Alain Carpentier vous expliquera en détail les divers aspects de cette remarquable action de mécénat. Une des plus importantes fondations de l'Institut, la Fondation Louis D, créée en 2000, délivre un prix scientifique annuel de 750 000 euros. Les modalités d'attribution de ce prix prestigieux seront exposées par mon confrère, le secrétaire perpétuel honoraire François Gros, dans un instant. La Fondation Rodolphe Mérieux, créée en 2001, contribue à la recherche appliquée à la santé publique, plus particulièrement à la lutte contre les maladies infectieuses. Elle a aussi pour objectif d'aider au développement en matière de formation scientifique et d'éducation scolaire. Elle a largement subventionné la construction de la faculté de pharmacie de Phnom Penh et financé l'équipement et le fonctionnement d'un laboratoire de microbiologie. 630 000 euros ont été dédiés à la construction et à l'équipement du laboratoire Rodolphe Mérieux de Bamako au Mali. Il se situe au sein du centre Charles Mérieux, dont la mission est de renforcer les capacités de diagnostic, le suivi des patients et la recherche dans le domaine des maladies infectieuses. Le laboratoire Rodolphe Mérieux a été inauguré le 17 janvier 2005 en présence de M. le chancelier de l'Institut. Cette fondation a financé la rénovation de l'enseignement scientifique au Cambodge en aidant à l'introduction dans les écoles de ce pays de la méthode dite « la main à la pâte » promue par nos confrères les professeurs Charpak, prix Nobel de physique, Léna et Kéré, et soutenue par l'Académie des sciences. Ce n'est là qu'une partie de l'œuvre humanitaire et scientifique de cette grande œuvre de mécénat. La Fondation Énergie, créée en 1999, a pour objectif de concourir à la recherche médicale, notamment dans le domaine des neurosciences. Son action, qui consiste dans l'attribution d'un grand prix annuel et de subventions de recherche, vous sera décrite par notre confrère, le professeur Jean Rosa. La Fondation Simone Estino del Duca, créée en 1995, a connu une augmentation importante de ses avoirs à la suite de la disparition très regrettée de Madame Simone del Duca, qui a fait de l'Institut de France son légataire universel. Les actions de cette fondation sont multiples. Dans le domaine des sciences, elles consistent à délivrer chaque année un prix de 250 000 euros. Alternativement, dans les secteurs scientifiques qui relèvent de la première et de la deuxième division de l'Académie des sciences. Monsieur Édouard Brézin, président de l'Académie des sciences, vous parlera du prix scientifique de la Fondation Sino et Simone Del Duca qui a été délivré cette année en 2005. Les fondations Yves Rocher et Boiteau du Lac soutiennent des actions tournées vers la nature, la conservation des espèces et les populations animales et végétales. La Fondation AGF, créée en 1984, compte maintenant 20 ans d'engagement aux côtés de la recherche. Elle décerne chaque année un prix de 75 000 euros pour un chercheur dont les travaux sont susceptibles d'augmenter l'espérance de vie. Pardonnez-moi pour cette énumération des actions de mécénat abritées à l'Institut. c'est que de nombreux donateurs lui ont accordé leur confiance pour concourir à l'épanouissement de la recherche scientifique dans notre pays et bien au-delà. Cette action très vivante que j'ai tenté de vous décrire est une manifestation de foi dans les résultats de la recherche qui, en permettant à l'homme une meilleure compréhension de lui-même et de son environnement, l'amène à vivre en meilleure harmonie avec la nature. Plus les sciences apportent à nos sociétés et à nos économies, plus il est naturel qu'elles aient besoin de celles-ci pour progresser et répondre aux défis du futur. C'est cette solidarité de culture et de volonté qu'incarnent les fondations et les travaux que nous honorons aujourd'hui. Merci.
Je vous remercie, Madame Le Douarin. C'est maintenant le professeur Alain Carpentier qui va proclamer les lauréats du prix scientifique de la Fondation Le Foulon de la Lande.
Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, mes chers confrères, chères consœurs, Mesdames et Messieurs, le Grand Prix scientifique Le Foulon de la Lande, Institut de France, doté de 600 000 euros, couronne cette année 3 chercheurs américains. Les professeurs Judah Folkman, Harold Dvorak et Napoleone Ferrara. Ceci pour leurs travaux remarquables sur l'angiogénèse. Alors, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Qu'est-ce que c'est que l'angiogénèse? Comme son nom l'indique, c'est la formation des vaisseaux et du cœur, d'une partie du cœur, depuis les premiers temps de la vie, chez l'embryon, jusqu'aux limites de la vie. Et le plus intéressant, c'est que cette angiogénèse ne concerne pas le développement, seulement le développement des vaisseaux normaux, mais aussi des vaisseaux pathologiques, des vaisseaux impliqués dans de nombreuses maladies, et c'est ce qui fait son très grand intérêt. Je vous invite à une merveilleuse histoire qui va nous conduire d'un bout à l'autre des États-Unis. Commençons par l'Est, où Judah Folkman, le premier des lauréats, est chirurgien. Il est chirurgien à Boston. Et non seulement il est chirurgien, mais il est chirurgien thoracique, ma spécialité. Et Judah Folkman est frappé par le fait que quand il opère des tumeurs du poumon, des tumeurs du thorax, eh bien, il y a une vascularisation, il y a une prolifération des vaisseaux absolument considérable. Tous les chirurgiens savent ça. Mais lui a une intuition particulière. À savoir que l'intuition, c'est qu'il devrait exister un facteur responsable de cette prolifération des vaisseaux. Et que si on arrivait à trouver ce facteur, et si on arrivait à l'inhiber, eh bien, on pourrait ainsi limiter la prolifération des cancers. Alors, c'est à quoi il s'attache. Il part de ses salles d'opération, il ouvre un laboratoire, il cherche et il trouve pour la première fois ce facteur responsable de l'angiogénèse. Mais pas seulement. Et il découvre également 12 facteurs qui sont capables d'inhiber ce facteur de l'angiogénèse. Alors voilà le premier acte. Le décor est fixé, l'angiogénèse et l'anti-angiogénèse. Alors, on passe de l'autre côté des États-Unis, sur la côte ouest maintenant, en Californie. Et là, presque en même temps, un autre chercheur, qui s'appelle Harold Dvorak, découvre que les tumeurs cancéreuses, encore les cancers, celles qui sont les plus malignes, sécrètent un facteur responsable d'une perméabilité anormale des vaisseaux qui nourrissent ce cancer. et qu'ils sont impliqués dans cette angiogénèse anormale. Mais non seulement dans cette angiogénèse anormale, mais également dans la cicatrisation des plaies et dans, d'une manière plus générale, les processus d'inflammation qui accompagnent toutes les maladies. Pour faire le lien avec les tumeurs cancéreuses, il dit cette merveilleuse phrase qui est un raccourci saisissant, « Les cancers, après tout, ne sont rien d'autre que des plaies qui ne cicatrisent pas. » Alors, dans ce combat engagé contre la maladie, contre le cancer, pour essayer de déterminer quels sont les mécanismes qui développent ces vaisseaux, arrive un troisième mousquetaire. On se reporte de l'autre côté des États-Unis, sur la côte Est cette fois, et le troisième mousquetaire, c'est Napoleone Ferrara, le plus jeune. Alors, indépendamment des deux autres, il découvre un facteur, lui, sécrété par les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales, c'est les cellules qui tapissent l'intérieur des vaisseaux et du cœur. Alors, il découvre ce facteur et il s'aperçoit que c'est le même facteur que les deux autres, que celui qui a été découvert par ses prédécesseurs. Alors, il en clone le gène, il montre que ce facteur est responsable du développement des vaisseaux et il est le premier à découvrir les récepteurs, c'est-à-dire sur la surface des cellules, ces éléments qui sont sensibles justement à ce facteur de développement. Mais plus important, il est le premier à en tirer les conséquences, et les conséquences en pathologie humaine, c'est-à-dire le premier à se dire, eh bien, faire en sorte qu'on puisse avoir dégagé de ces recherches et de ces mécanismes des médicaments pour lutter contre les cancers. Alors, c'est là que, évidemment, cette histoire prend toute sa mesure humaine. Et je dois simplement vous dire qu'il existe deux maladies dans lesquelles les vaisseaux sont impliqués. Les premières, c'est celles dans lesquelles les vaisseaux sont en nombre insuffisant. C'est l'infarctus du myocarde que tout le monde connaît. Le cœur est mal vascularisé parce qu'il n'y a pas assez de vaisseaux, parce qu'ils sont bouchés. Et puis les autres, c'est au contraire dans les cas où les vaisseaux sont trop nombreux, proliférants. Nous avons déjà vu le cas du cancer, mais il y en a d'autres. Et il y a en particulier ces atroces maladies de l'œil que sont la dégénérescence de la macula et la rétinite diabétique qui sont les premières causes de cécité chez l'homme. Alors, si dans ces cas où il y a trop de vaisseaux, on utilise une molécule capable d'inhiber les vaisseaux, eh bien, naturellement, on peut s'attendre à un effet thérapeutique bénéfique. Voilà cette aventure trop brièvement résumée, mais qui vous montre une chose, c'est qu'une recherche, c'est une longue patience, ça s'étend sur 20 ans, et qu'elle résulte bien souvent de la contribution de plusieurs hommes, et c'est pour ça que nous avons distingué ces trois lauréats. Chacun sait que les trois mousquetaires étaient quatre. Alors, qui est donc le quatrième? Eh bien, le quatrième, c'est le malade. Le malade qui nous fait confiance avec son courage, avec justement sa confiance, et qui lutte contre la maladie avec les médecins, avec les chercheurs qui l'accompagnent. Je veux rendre maintenant, pour terminer, un hommage à la Fondation Le Foulon de la Lande et tout spécialement à ses fondateurs, Monsieur et Madame Le Foulon, qui sont ici. Ils sont héritiers du laboratoire de la Lande. Bien d'autres auraient utilisé cet héritage pour faire bien autre chose. Mais eux, ils ont voulu le contracter à la recherche cardiovasculaire et vous en voyez l'importance. Uniquement dévolu à la recherche cardiovasculaire, le prix dégagé par cette fondation est également des bourses, dont le total fait 1 million d'euros par an. 1 million d'euros par an, moitié pour le Grand Prix, moitié pour la recherche. Et vous voyez combien cette contribution est absolument fondamentale pour les chercheurs de notre pays et pour honorer ceux des autres pays, et je l'espère un jour, un chercheur français. Mais le problème, c'est que tous les chercheurs français éminents qui mériteraient ce prix, ils sont dans le conseil scientifique. Alors, je suis responsable du fait qu'ils n'auront jamais ce prix. Enfin, un dernier hommage au conseil scientifique. On imagine mal le travail réalisé par ce conseil scientifique qui a la charge énorme de distinguer dans le monde entier des chercheurs qui nécessitent d'être signalés. Après avoir distingué les années précédentes un Anglais, puis un Américain et enfin un Italien, le Conseil scientifique a été particulièrement heureux cette année d'être le premier à attirer l'attention sur l'importance capitale en biologie et en clinique humaine des travaux de Judah Folkman, Harold Vorak et Napoleone Ferrara, que j'invite à venir me joindre. Alors, je vous présente Judah Folkman, qui est à l'origine, en tous les cas, des premiers travaux sur ce facteur de développement des vaisseaux. Judah, congratulations. Maintenant, nous avons le professeur Harold Vorak. Congratulations. Et le troisième mousquetaire. Mousquetaire.
Yes, yes.
Voilà.
La parole est au professeur François Gros, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences, pour la présentation des lauréats du Grand Prix scientifique de la Fondation Louis D.
Monsieur le Président, Monsieur le Chancelier, Monsieur le Ministre, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, je voudrais situer la Fondation Louis D en rappelant qu'elle a été créée en juillet 1999 grâce à deux grands fondateurs mécènes qui ont souhaité garder l'anonymat et auxquels je suis heureux, particulièrement heureux, de rendre un hommage appuyé au nom de l'Institut, à la fois pour leur générosité, mais aussi pour leur ouverture de cœur et d'esprit face aux grands défis qui se posent aujourd'hui à l'homme, à la société, mais aussi à la science et à la médecine. Cette fondation a pour vocation le soutien par l'octroi de très grands prix d'actions qui sont à caractère caritatif ou culturel, ainsi que également l'encouragement de la recherche scientifique. Chaque année sont décernés deux prix d'un montant chacun considérable de 750 000 euros, d'une part dans le domaine scientifique, d'autre part dans les domaines humanitaires ou culturels. La Fondation attribue également, comme on l'a vu pour la précédente, de très importantes subventions ainsi que des bourses de recherche. Monsieur Michel Albert, qui est le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, aura l'occasion de vous entretenir du prix à caractère humanitaire. Mais je voudrais d'ores et déjà vous faire saisir et souligner le fait que par leur montant même, les prix Louis D de l'Institut de France figurent certainement au nombre des prix les plus importants, sûrement en Europe et probablement aussi dans le monde. Les thèmes scientifiques sont arrêtés chaque année sur décision du Conseil de la Fondation. Mais ce qui est important, c'est que la désignation du ou des lauréats résulte de l'examen par un jury de l'Académie des sciences, puis par le Conseil, de propositions qui émanent d'une douzaine d'Académies des sciences qui figurent parmi les plus prestigieuses au monde. Parmi les pays qui se trouvent ainsi concernés, je citerai bien sûr la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suisse, la Suède, mais aussi les États-Unis, le Japon, la Russie et l'Inde. C'est vous dire que ce choix n'est pas fait au hasard et que seuls des personnalités scientifiques de très très haut niveau sont choisies par le jury du prix. Les thèmes qui ont été primés, par exemple, depuis l'an 2000, ont concerné, par exemple, la lutte contre le paludisme et la tuberculose, notamment grâce aux recherches de l'Institut Pasteur, les recherches sur la maladie d'Alzheimer, génétique de cette grave maladie, l'étude des maladies auto-immunes, les progrès de la neuroimagerie pour comprendre le fonctionnement du langage, mais aussi, dans un autre cadre, l'étude et la prévision des risques climatiques. C'est ainsi qu'ont été récompensés des Américains, des Allemands, et comme on va le voir tout à l'heure, des Européens et des Américains également, mais aussi beaucoup de Français. Le thème scientifique qui a été retenu pour l'année 2005 va peut-être vous surprendre par son caractère assez ésotérique. Il s'agit du nouveau monde des petits ARN non codants et de leur rôle dans le contrôle des fonctions cellulaires. Eh bien, ce thème, qui pourra sembler évidemment très ésotérique, en réalité recouvre une de ces découvertes révolutionnaires en sciences du vivant, comme on n'en voit guère surgir que tous les 20 ou 30 années. On sait en effet que les gènes cellulaires en particulier, sont portés par une très longue molécule devenue désormais très populaire par les tests auxquels elle donne lieu, à savoir l'acide désoxyribonucléique, l'ADN, qui est présent dans nos chromosomes, et que pour agir, les gènes ADN fabriquent une sorte de copie conforme qu'on appelle l'ARN messager, lequel est à son tour traduit, comme on dit, selon le langage des biologistes, pour former les protéines dans la cellule. François Jacob et Jacques Monod, il y a très exactement 40 ans, avaient montré quelque chose de très important et de très surprenant, à savoir que les gènes interviennent au cours du développement, non pas tous à la fois, mais selon une hiérarchie très stricte, très précise. Ainsi, certains d'entre eux, qu'ils avaient appelés les gènes régulateurs, commandent au fonctionnement des autres. Et cette véritable cybernétique de la cellule fait intervenir des protéines dites régulatrices, qui sont en quelque sorte les relais entre ces gènes régulateurs et les gènes qui leur servent de cible. La surprise fut très grande dans le milieu des années dans la fin des années 90, vers 1995, lorsqu'on découvrit en étudiant un très modeste invertébré, le ver nématode, que dans certains cas, les intermédiaires de cette régulation génétique ne sont pas des protéines, mais ce sont des petites molécules qu'on appelle des ARN, des acides ribonucléiques, ou des micro-ARN, parce qu'elles sont extrêmement petites, et qui ont la capacité d'aller bloquer, quelquefois en les détruisant à distance, les produits des gènes principaux, des ARN messagers, interférant ainsi d'ailleurs avec la fabrication par ces derniers des protéines. La découverte de ces micro-ARN, qui a été plus tard étendue à toutes les espèces, l'homme y compris, a renouvelé totalement nos conceptions sur les bases moléculaires de l'évolution, d'une part, sur le fonctionnement intégré de l'usine cellulaire, sur les mécanismes de lutte contre certains virus, y compris les virus des plantes. Elle a contribué au progrès de la génomique, la caractérisation des gènes sur la carte du génome humain. Elle devrait permettre, ce qui est encore plus important, et de fait elle commence à permettre, de forger de nouvelles molécules en pharmacologie des maladies génétiques et du cancer. Les deux lauréats du prix 2005 en sont parmi les artisans les plus importants au monde. Il s'agit d'une part du professeur David Bartle, qui est professeur à l'Institut Whitehead de recherche biomédicale à MIT aux États-Unis, auquel on doit d'avoir élucidé le mode de formation de ces ARN lilliputiens, d'en avoir remarquablement démontré les fonctions régulatrices, d'avoir expliqué comment ils parviennent à mettre en silence, au silence, les ARN messagers sur lesquels ils se fixent. L'autre lauréat, c'est le professeur Ronald Plasterk de l'Université d'Utrecht, qui s'est illustré en démontrant qu'une autre catégorie de très petits ARN, qu'on appelle les SIARN, pour le Short Interfering RNA, très voisins par leurs propriétés des micro-ARN de Bartle, interviennent dans la protection de nos cellules contre des dommages qui peuvent résulter en particulier de modifications chromosomiques, par exemple des déplacements ou des transpositions de gènes. Nos chromosomes ne sont pas statiques, il y a des mouvements qui se produisent au cours du développement, même pendant notre vie, qui sont parfois bénéfiques et parfois malheureusement donnent lieu à des maladies très graves. Assurant en quelque sorte les travaux de Plasterk, ce qu'on pourrait appeler une véritable immunité à l'égard des accidents génomiques. Ainsi, on peut dire que grâce à la reconnaissance des travaux de ces deux prestigieux lauréats, un Américain et un Européen, le prix Louis D 2005 devrait contribuer à l'émergence d'un nouveau et très important domaine des sciences de la vie qui va s'avérer, nous en sommes persuadés, très riche d'applications en médecine, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, en agronomie. Je vous remercie.
Les professeurs Bartel et Plasterk ont monté à la tribune. Ils sont là.
Eh bien, je suis très heureux de remettre le... comment dirais-je, le diplôme et la médaille au professeur Bartel, et qui a été, comme je l'ai dit, l'un des grands découvreurs du micro-RNA. Je le fais également avec beaucoup de plaisir pour le professeur Plasterk, qui nous vient d'Utrecht. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour remercier aussi le jury. Nous avons parmi nous d'ailleurs le membre hollandais du jury qui a désigné le professeur Plasterk. Le membre du jury américain, qui est d'ailleurs un prix Nobel, n'a pas pu malheureusement se rendre avec nous, mais je tiens à féliciter nos deux lauréats très chaudement.
La parole est au président Édouard Brézin de l'Académie des sciences pour la proclamation du lauréat du prix scientifique de la Fondation Simone et Cino del Duca.
Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre Chancelier, Monsieur le Ministre, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, les dispositions testamentaires du généreux legs de Madame Simone del Duca comportent la création, je cite, d'un prix international destiné à récompenser une équipe de chercheurs scientifiques françaises ou étrangers. Ce prix, le plus important et le plus notoire de France, sera remis lors d'une séance solennelle à l'Institut de France. Il est donc décerné ici, aujourd'hui même, pour la première fois. Après avoir entendu le bureau de l'Académie des sciences, le chancelier Pierre Messmer a décidé que pour 2005, le comité de la Fondation Simone et Cino del Duca retiendrait, premièrement, un grand prix de 250 000 euros destiné à récompenser une équipe française ou européenne. Le responsable recevra 50 000 euros à titre personnel et une subvention de 200 000 euros destinée à l'équipe désignée. Trois subventions de 100 000 euros chacune destinées à des jeunes équipes afin de leur permettre d'acquérir les moyens contribuant à l'accomplissement de leur programme. 8 bourses postdoctorales, 2 pour le lauréat du Grand Prix et 2 pour chaque bénéficiaire de la subvention. Pour la session 2005, la Fondation Simone et Cino del Duca a confié l'appel et l'examen des candidatures au jury des Grands Prix des sciences de la matière et de l'univers de l'Académie des sciences. Malgré le calendrier serré de mise en place de ce prix, Grâce à la forte implication des académiciens des sciences, plusieurs candidatures de très grande valeur ont été présentées. Pour l'avenir, compte tenu de l'importance de ce prix, nous procéderons, comme c'est la règle pour les plus grands prix internationaux, à un large appel à candidature auprès des plus grandes institutions internationales. Le premier grand prix scientifique Cino del Duca 2005 est destiné à M. Massimo Inguccio, professeur à l'Université de Florence, et à l'équipe qu'il a constituée avec les professeurs Sandro Stringari et Lev Pitayevski de l'Université de Trento. Massimo Inguccio est un expérimentateur dans ce domaine si vivant de l'interaction entre matière et rayonnement. Il a réalisé, au cours de ces dernières années, plusieurs expériences novatrices dans le domaine des atomes ultra-froids. En effet, depuis une dizaine d'années, plusieurs méthodes ont été inventées afin de piéger de la matière par du rayonnement. On peut ainsi arrêter presque complètement tous les mouvements des atomes et donc se rapprocher du zéro absolu, cette borne infranchissable située à moins 273 et quelques degrés. Les techniques actuelles ont permis de s'en rapprocher jusqu'à n'en être plus distant que de fractions de millionièmes de degrés. Notre confrère Claude Cohen-Tanoudji, qui a joué un rôle essentiel dans cette grande aventure, a reçu le prix Nobel pour ses travaux en ce domaine. L'intérêt de ces recherches n'est pas de s'inscrire dans je ne sais quel livre des records, mais de permettre de mettre en évidence de nouveaux états de la matière. Comme par exemple, un état prédit il y a plus de 80 ans par Albert Einstein, appliquant aux atomes les idées développées sur la lumière par un jeune Indien alors inconnu du nom de Bose. Les potentialités ouvertes au plan fondamental sont considérables, mais comme souvent en science, bien comprendre permet aussi de bien agir. C'est ainsi que disposer de ces atomes froids permet d'envisager désormais des horloges si précises que leur erreur éventuelle ne dépasserait pas une seconde sur toute la durée de vie de l'univers, nos 15 milliards d'années. De telles horloges embarquées en satellite permettront au GPS des précisions bien supérieures à celles d'aujourd'hui, ou pas, par exemple, de suivre de variations de position des continents qui ne dépasseraient pas le centimètre par an. Dans ce domaine très important de la science contemporaine, Massimo Inguccio a réalisé plusieurs expériences capitales. Il a découvert une méthode de refroidissement universelle, en ce sens qu'elle peut s'appliquer à toute espèce atomique. Il a mis en évidence une instabilité d'effondrement d'un gaz composé d'un mélange d'atomes bosoniques et fermioniques. Ne me demandez pas de définir ces termes dans les quelques minutes imparties, mais vous reconnaîtrez dans ce jargon les noms de Bose et du génial Enrico Fermi. Il a étudié le comportement d'un gaz quantique dans le réseau périodique créé par une onde laser stationnaire. On réalise ainsi l'analogue de la situation que connaissent les électrons dans un solide, mais la maille cristalline, au lieu de n'être que quelques nanomètres, est plusieurs milliers de fois supérieure, et elle est donc ici même ajustable. Il a réalisé la première expérience d'interférométrie avec des atomes fermioniques. Certes, on savait depuis Louis de Broglie que les particules sont aussi des ondes et donc susceptibles d'interférer, mais la réalisation d'un laser où la lumière est remplacée par des atomes s'apparentait encore à la science-fiction il y a 15 ans. Les succès expérimentaux de l'équipe de Florence ont dépendu de manière cruciale de l'interaction avec les remarquables théoriciens de Trento. Sandro Stringari, que nous avons eu la chance d'accueillir cette année à Paris grâce à la chaire européenne du Collège de France, Lev Pitayevski, issu de la grande école russe qu'avait constitué à Moscou le grand théoricien Lev Davidovich Landau, sont parmi les meilleurs théoriciens de cette nouvelle physique de la matière condensée issue des atomes froids. Ce domaine de recherche est l'un des plus féconds de notre époque. Je voudrais noter également la richesse des échanges entre ce groupe italien et l'école française de physique atomique. Monsieur Inguccio collabore régulièrement avec les physiciens de l'école normale supérieure et de l'Institut d'optique d'Orsay. Avant de l'appeler pour vous le présenter, je voudrais tout de même signaler les noms des trois jeunes équipes qui recevront les subventions de 100 000 euros de la Fondation Del Duca. Il s'agit d'abord de Mme Anne-Marie Lagrange, chercheure au CNRS, au laboratoire d'astrophysique de l'Université Joseph Fourier de Grenoble, qui est spécialiste des systèmes protoplanétaires, ce qui en jargon signifie ces systèmes de poussière dont nous sommes issus en ce qui nous concerne il y a environ 5 milliards d'années et auxquels nous retournerons, puisque vous savez, tel est notre destin. François Chabot, géochimiste à l'Université Louis Pasteur à Strasbourg, Bertrand Girard, physicien, professeur à l'Université de Toulouse III. Voilà les jeunes équipes qui recevront des subventions pour leurs recherches et j'appelle maintenant le lauréat du Grand Prix Simone et Cino del Duca, M. Massimo Inguccio.
Au professeur Jean Rosa pour la proclamation des lauréats du prix scientifique de la Fondation NRJ.
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers confrères, Mesdames, Messieurs, j'ai la charge de vous présenter les récipiendaires du prix NRJ 2005. Je vais d'abord vous dire un mot de la Fondation NRJ. Elle a été fondée en 1999 par M. Jean-Paul Baudecroux, président du conseil de surveillance de Energy Group, sous l'égide de l'Institut de France, qui en assure la gestion scientifique et administrative. La Fondation Energy a pour but de concourir à la recherche médicale, notamment dans le domaine des neurosciences. M. Jean-Paul Baudecroux, le chancelier Mesmer et la secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, Mme Ledouarin, co-préside le comité de direction qui comporte par ailleurs des membres du directoire de l'énergie et trois académiciens des sciences. Dans ce cadre, après un large appel d'offres nationales et internationales, le Grand Prix Énergie d'un montant de 400 000 francs, amené par la suite à 100 000 euros, est décerné chaque année. En 2000, le prix a été décerné au professeur Fischer pour ses travaux sur le traitement des enfants bulles par greffe de gènes, en 2001 au docteur Catherine Billard pour ses recherches sur les troubles de l'apprentissage chez l'enfant et les dyslexies, en 2002 au professeur Guédenet pour des recherches sur les dépressions de l'enfant, en 2003 au professeur Dulac et à son équipe pour des recherches sur les épilepsies infantiles et en 2004 à M. Topilko qui à l'École normale supérieure a fait des recherches remarquables sur les cellules souches en médecine régénérative et en neurosciences. Par ailleurs, chaque année, des subventions pour un montant global de plusieurs centaines de milliers d'euros sont versées à des laboratoires de recherche en neurosciences. La thématique que nous avons retenue pour le Grand Prix 2005 concernait la physiologie et la pathologie de l'oreille interne. L'oreille est un microphone extraordinairement sophistiqué qui fait parvenir au cerveau qui les enregistre, les décode et les mémorise, les sons venus de l'extérieur. Ces sons font d'abord vibrer le tympan, ça tout le monde sait ça, au niveau de l'oreille externe, puis par l'intermédiaire de la chaîne de tout petits os qu'on appelle des osselets, situés dans l'oreille moyenne, ces sons sont amplifiés et transmis à l'oreille interne, laquelle transforme, comme le ferait un quartz piézoélectrique, ces vibrations en signaux électriques et les envoie au cerveau. L'oreille est une merveilleuse machine. Si la structure extrêmement complexe de cette machine était connue depuis longtemps, son fonctionnement et sa pathologie étaient, jusqu'aux travaux des récipiendaires 2005, d'un abord très difficile, contrairement aux deux autres compartiments de l'oreille, dont les infections, les otites ou l'ostéospongiose étaient connues et traitées depuis longtemps. Les deux récipiendaires de 2005 ont développé des recherches qui ont permis de débloquer cette situation de non-connaissance sur l'oreille interne. Le professeur Tran Bahui est un otorhino-laryngologiste du CHU Bichat à Paris.
Il a combiné une recherche de physiologie fondamentale et une recherche clinique, respectivement, dans une unité INSERM et dans son service hospitalier. Son objectif de départ a été de pouvoir atteindre et analyser l'endolymphe, un liquide qui est situé au cœur de l'oreille interne et joue un rôle clé dans celle-ci, dans la transmission vers les cellules qui vont les transformer en impulsions électriques, les sons arrivant à l'oreille interne. Monsieur Tran y parvint après avoir eu l'idée d'appliquer à l'oreille la technique de micro-ponction des cellules rénales. C'était une idée très simple. Depuis des années, on savait faire des micro-ponctions sur une seule cellule du rein. Mais personne avant Monsieur Tran n'avait eu l'idée de l'appliquer à l'oreille. Il l'a fait. Ce faisant, il fut capable non seulement de pouvoir étudier l'endolymphe, mais également d'obtenir des liquides contenus dans chacune des cellules de l'oreille interne, isolément. Ces techniques lui permirent de faire des progrès décisifs dans la compréhension des mécanismes présidant à la formation et à la composition de ces liquides et à leur rôle. Ces micro-ponctions, qui sont un véritable exploit nanotechnologique avant l'ère, amenèrent une application clinique majeure, l'étude de la destinée des antibiotiques parvenant dans l'oreille interne. Il a ainsi pu analyser par quel mécanisme des antibiotiques comme la streptomycine pouvaient induire une surdité, accident gravissime survenu par exemple au début des traitements des méningites tuberculoses de l'enfant, et M. Tran a réussi à définir des règles simples qui permettent d'éviter ces accidents, entre autres. Le récipiendaire du prix 2005, l'autre récipiendaire est un Britannique, le professeur Richardson, de l'Université du Sussex en Grande-Bretagne. C'est un expérimentateur qui, en associant biochimie, biologie et génétique moléculaire, a pu isoler, décrire et découvrir le rôle de molécules de la membrane tectoriale, élément de l'oreille interne qui recouvre cet endolymphe. La membrane tectoriale forme une espèce de sac à l'intérieur de l'oreille interne, ce sac contenant l'endolymphe dont j'ai parlé tout à l'heure. Et cette membrane tectoriale transmet les vibrations sonores qui proviennent de l'oreille moyenne. Il a montré qu'un certain nombre de ces molécules pouvaient être mutées et responsables de causes de surdité jusqu'alors totalement méconnues. Son avancée récente, la création d'un modèle de souris sourde obtenu par greffe du gène d'une protéine mutée humaine, constitue une avancée considérable pour la compréhension et les essais thérapeutiques pour les surdités de l'oreille interne, surdités qui sont probablement dans un nombre considérable et qui étaient vraiment totalement méconnues jusqu'à quelques années. Monsieur Richardson est l'un des chefs mondiaux dans la course vers l'identification des molécules mutées de l'oreille interne. En conclusion, les deux récipiendaires sont donc parmi les meilleurs chercheurs au monde qui font progresser à grands pas la compréhension et les espoirs thérapeutiques dans un domaine de recherche jusqu'ici assez peu subventionné par les fonds publics. Monsieur Tran Bahui, Monsieur Richardson. C'est un plaisir, mon cher collègue, Monsieur Tran, médecin comme moi, de pouvoir vous remettre le prix que vous avez si bien mérité. Bonjour, Monsieur Richardson. How are you?
Very well, thank you.
Je suis très heureux de vous donner ceci. Et je voudrais, avant de partir, demander à Monsieur Jean-Paul Baudecroux, qui est le donateur, ce que signifie l'acronyme énergie, que bien que membre de l'Académie des sciences, je n'ai pas réussi à décoder.
Nous quittons le mécénat scientifique des fondations de l'Institut et nous allons maintenant entendre M. Gabriel De Broglie nous présenter le mécénat humanitaire et culturel des fondations. Monsieur De Broglie, vous avez la parole.
Mettre des sujets au concours, décerner des prix, attribuer des bourses sont depuis toujours des activités consubstantielles à la vocation des académies. Au XVIIIe siècle, les idées d'humanité et de progrès ajoutèrent les secours aux familles ou aux plus défavorisés. À notre époque, les succès de la recherche médicale, un renouveau du mécénat, non plus seulement dans les lettres et les arts, l'intérêt accordé aux divers aspects du développement culturel, un sens plus aigu aussi de la solidarité face aux nouveaux défis humains ou sociaux, ont placé l'Institut de France et les académies au cœur d'un réseau de générosité et de confiance surgi d'initiatives très diverses de la société dans les domaines humanitaires et culturels. Monsieur le Chancelier a parlé dans son introduction de révolution. Mon propos est de montrer la nouveauté et l'importance de ce mécénat dans ces domaines. Ce qui est nouveau depuis 6 années, c'est d'abord la variété et la dimension des fondations et des sommes distribuées. Nous remettons aujourd'hui les très grands prix. À côté de ces grandes initiatives, sont accomplies de très nombreuses démarches, certaines encore très importantes, par des fondations peut-être moins spectaculaires, ou bien par les mêmes grandes fondations en complément de leurs grands prix. Et dans certains cas, le grand prix n'est qu'une petite partie de l'ensemble des sommes distribuées. C'est le cas de la Fondation Simone et Cino de Luca. L'éventail des domaines d'intervention est très ouvert. Il va de l'art dans la ville à l'enfance handicapée ou malheureuse, à toutes les formes d'action sociale, à la vie animale, au monde végétal, etc. Certaines fondations sont anciennes. La plupart datent de moins de 6 ans. Certaines sont spécialisées. On a mentionné celles qui l'étaient dans le domaine des sciences, mais qui parfois ont aussi des actions dans le domaine humanitaire et culturel. Mais dans le domaine humanitaire et culturel, il faut citer la Fondation Lefort-Beaumont en matière culturelle, la Fondation d'Aïs, la Fondation de Heck en matière humanitaire. D'autres sont mixtes, comme la Fondation Cora, à la fois humanitaire, caritative et culturelle, et la Fondation Rodolphe Mérieux pour la recherche appliquée à la santé publique, mais aussi pour la formation et le développement, ou encore la Fondation Blanc-Ménil pour l'éducation et le développement durable, ou la Fondation Janelli et Jean-René Fourtout pour l'humanitaire et le culturel. Certaines fondations sont, par leur importance, de plein exercice. Elles interviennent dans la plupart des domaines. C'est le cas, on les retrouve ici, de la Fondation Louis D dans le domaine humanitaire et culturel et de la Fondation Simone et Cino del Duca. Je signale que l'Institut de France abrite aussi certaines fondations de flux ou d'entreprises, comme les fondations AGF Athéna, Loreus, Yves Rocher, Steria, Fitrust et Avenir Finance. Une autre nouveauté de ces grandes fondations réside dans le caractère de leurs interventions, décentralisées, souples et adaptées à leur objet. L'ampleur de celles-ci impose certes qu'il y ait une programmation, mais leur diversité interdit qu'il y ait une programmation centralisée, unique, technocratique ou calquée sur celle des organismes similaires de l'État. La programmation des fondations de l'Institut de France résulte d'abord de la volonté des fondateurs, aussi de la relation de confiance qui s'établit entre les fondateurs et l'Institut de France, dont les membres coopèrent avec les fondateurs, leur offrent leur expertise et, selon ce que disent les statuts, participent avec eux au choix ou se voient déléguer par eux le soin d'exercer ces choix. Une forme originale de programmation s'effectue aussi pour les fondations dans la durée, année après année, pour chacune des fondations. et aussi dans l'annonce par l'Institut, préalable au processus de sélection des lauréats, des domaines ou des spécialités ouverts pour l'année considérée, ceci dans le domaine social ou culturel. Évidemment, la qualité du choix des lauréats est une aventure commune aux mécènes et aux membres de l'Institut de France. Ceux-ci s'entourent des meilleurs experts en matière sociale ou culturelle pour exercer leur choix, experts français ou étrangers, et, est-il besoin de le dire, ils s'acquittent de leur mission avec la compétence et le dévouement qui s'attachent à leur autorité et à leur prestige de membres de l'Institut. Je dois ajouter une troisième originalité des grands prix qui sont décernés aujourd'hui. Ces grands prix s'ajoutent, rappelons-le, à toutes les récompenses attribuées chaque année par les académies et par l'Institut. Ils peuvent consister eux-mêmes en une récompense, en une consécration d'une œuvre, si les statuts de la Fondation en disposent ainsi. Mais la tendance générale, neuve et féconde, est de considérer ces prix comme des subventions affectées, des encouragements à entreprendre, des aides à la réalisation d'un équipement, à la création d'un organisme. Cela est rendu possible par l'importance de la somme qui permet de contribuer de manière déterminante à l'accomplissement de grands projets. Chaque grand prix devient ainsi en lui-même une fondation, ayant un objectif défini et, si possible, fonctionnellement isolable. Par exemple, la création d'une chaire d'enseignement ou d'un établissement de soins ou d'accueil dans des domaines très particuliers, par exemple. Cette spécialisation des grands prix possède plusieurs avantages. Elle permet de créer des équipements pilotes dans des domaines nouveaux et de combler des lacunes des équipements existants avec un effet de levier évident pour l'avenir. Elle concentre l'image de chaque fondation auprès des bénéficiaires ou du public en général. Elle établit un lien entre les mécènes et les responsables des secteurs humanitaires ou culturels dans lesquels ils opèrent. Elle permet aussi un suivi de l'action de mécénat, soit par le déblocage successif des sommes allouées au fur et à mesure de la réalisation, soit par des comptes rendus que les bénéficiaires adressent à la Fondation, ce qu'ils ont à cœur de faire pour marquer leur gratitude. Ces nouvelles formes d'intervention ne datent que de quelques années. On est loin d'en avoir tiré toutes les leçons et toutes les conséquences, mais on sent bien qu'il s'agit là d'une révolution qui accompagne des transformations générales de la société. Les grands prix dans les domaines humanitaires et culturels relèvent de l'initiative privée. Ils viennent en appui des actions publiques, mais ils sont indépendants d'elles, possèdent plus de souplesse, plus d'efficacité ponctuelle pour répondre à des besoins nouveaux, qui sont nombreux, du fait de l'apparition de nouvelles formes de dépendance, de pauvreté ou d'exclusion. Elles possèdent aussi plus de stabilité à l'abri des fluctuations. Ces initiatives, totalement désintéressées, sont à la différence de beaucoup d'actions étatiques fondées sur la confiance. Elles témoignent d'une vitalité remarquable de la société civile. Elles affirment aussi la vocation de l'Institut de France de faire écho à cette vitalité, de renouveler grâce à elle ses traditions anciennes sans y renoncer et d'intervenir dans les domaines les plus actuels de l'action sociale et humanitaire, de la recherche et de la culture.
C'est maintenant M. Michel Albert, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, qui va nous présenter l'association lauréate du Grand Prix humanitaire de la Fondation Louis D.
Sur la ligne du discours que vient de nous adresser M. Gabriel de Broglie, permettez-moi de vous donner un exemple du renouveau qui fait de l'Institut de France un acteur de plus en plus important dans la lutte contre de nombreuses formes de la détresse humaine. Cette lutte, Nous ne pouvons évidemment la mener que grâce à de généreux donateurs qui ont souhaité venir en aide aux plus faibles et aux plus démunis. C'est donc avec une gratitude toute particulière que je salue le couple admirable qui est à l'origine du Grand Prix Louis D humanitaire et auquel M. François Gros a déjà rendu hommage il y a quelques minutes. Les membres du jury scientifique, longtemps présidé par M. Jean Cluzel, ont décidé de décerner le Grand Prix humanitaire au Secours catholique. Le montant considérable de ce prix, 750 000 euros, soit environ 1 million de dollars, permettra à l'Association des cités du Secours catholique de mener à terme une action particulièrement importante, la création dans la banlieue parisienne, à Bagneux, d'un foyer d'accueil médicalisé pour des autistes adultes. Le Secours catholique, on le sait, est présent sur tous les fronts de l'aide et du secours. Ainsi a-t-il déjà créé 14 cités qui remplissent des fonctions variées. 10 agissent dans le secteur social, 3 opèrent dans le domaine du handicap mental et une permet de loger des familles de malades hospitalisés à Paris. En ouvrant une maison entièrement consacrée à la prise en charge de l'autisme, le Secours catholique répond à une situation de crise. En effet, il y aurait en France entre 30 000 et 60 000 autistes, selon la définition que l'on retient de la maladie, et au moins 20 000 d'entre eux sont des adultes. Si les efforts accomplis ces dernières années depuis le lancement du plan autisme par Mme Simone Veil en 1995 commencent à porter leurs fruits pour les mineurs atteints de ces troubles du comportement, 60% d'entre eux sont actuellement pris en charge, il n'en va pas de même pour les adultes. Dès l'adolescence, les autistes doivent quitter leur centre d'accueil pour enfants afin de trouver une place dans un établissement adapté, lequel est en pratique souvent introuvable. En effet, les structures spécialisées n'accueillent guère plus de 2000 autistes âgés de 16 à 55 ans, soit seulement 10% de la population autiste adulte. Autant séjourneraient dans des hôpitaux psychiatriques et près de 3000 autres autistes adultes français n'ont pu trouver refuge que dans des établissements de pays voisins, en particulier la Belgique et la Suisse. Ainsi, sur les 20 000 autistes adultes, plus de la moitié restent, faute de mieux, dans leur famille. Malgré tout leur dévouement, les proches ne peuvent pas s'occuper 24 heures sur 24 d'un adulte autiste, ni lui apporter a fortiori l'aide pédagogique dont il pourrait bénéficier dans un centre spécialisé. Les autistes peuvent présenter des crises de violence ou de panique, souvent impressionnantes, parfois très dangereuses. Pour un professionnel formé à ces maladies, il est possible de prévenir la crise avant qu'elle n'éclate et de mettre rapidement en place des stratégies de détournement. En revanche, sans compétences particulières, les proches ou les équipes soignantes non formées ne parviennent ni à anticiper ni à calmer ces crises. L'existence de foyers spécialisés, comme celui qu'a décidé de mettre en place le Secours catholique, est donc apparue aux membres du jury d'une grande nécessité, ainsi que répondre profondément aux volontés humanitaires des donateurs. Ce centre, qui s'appellera le Centre des Marronniers, accueillera prochainement 47 autistes adultes dans les meilleures conditions de traitement et de suivi pour leur apporter soulagement et réconfort ainsi qu'à leurs proches. Le conseil d'administration de la Fondation Louis D entend ainsi contribuer au soulagement de souffrances concrètes, mais aussi faire progresser dans notre pays l'indispensable prise de conscience du sort qui est celui des adultes handicapés. Ainsi, nous participons à l'élan général de solidarité voulu par M. le Président de la République, qui a fait de la prise en charge du handicap une grande cause nationale. En aidant le Secours catholique, l'Institut de France, par l'intermédiaire de la Fondation Louis D, prend sa part de l'immense effort que la France doit aujourd'hui consentir pour accompagner les personnes handicapées avec toute la dignité que nous leur devons.
J'invite maintenant Jacques Decamp, vice-président de l'Association des cités du Secours catholique, à monter à la tribune.
Monsieur le Président, Monsieur l'Ambassadeur, je suis particulièrement heureux de recevoir ce prix en reconnaissance du magnifique travail que fait le Secours catholique pour les autistes adultes.
La parole est à Madame Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, pour la proclamation du lauréat du prix littéraire de la Fondation Chino et Simone Del Duca. Madame le secrétaire perpétuelle.
Le jury du prix mondial Del Duca, qui s'est réuni en janvier et en mars 2005, a été particulièrement attentif à retenir des candidatures d'écrivains appropriées aux intentions des généreux fondateurs, Simone et Chino Del Duca, disparus tous deux aujourd'hui, mais dont le souvenir est très vivant parmi nous. Et aussi, il a été attentif à ce que ce choix tienne compte de la dimension du prix. C'est pourquoi deux exigences se sont imposées à lui. Que l'écrivain et l'œuvre choisie soient porteurs d'un véritable message humaniste, que leur très haute qualité intellectuelle leur confère une réputation internationale incontestable. Partant de ces deux exigences, le jury a examiné avec une extrême rigueur un certain nombre de candidatures de très grande valeur, dont quelques-unes ont d'ailleurs été inscrites au procès-verbal pour être revues l'an prochain. Le choix entre plusieurs grandes figures de la littérature et de la pensée a été très difficile. Mais finalement, c'est sur le nom de Simon Leys que le jury s'est accordé à la majorité absolue. Simon Leys, Pierre Ricmans, pour l'état civil, est né à Bruxelles en 1935. Un voyage accompli en Chine à 20 ans, alors qu'il étudiait l'histoire de l'art à Louvain, a déterminé sa vocation de sinologue. Il a poursuivi ses études à Taïwan, Singapour et Hong Kong, et acquis non seulement une maîtrise parfaite du chinois et de la culture chinoise, mais aussi un grand amour pour la Chine et une expérience de la réalité de ce pays, notamment au moment de la révolution culturelle. Ses premiers travaux, purement scientifiques, portent sur les aspects classiques de la Chine. C'est ainsi que furent publiés, sous le nom de Ricmans, les propos sur la peinture du moine Citrouille, traduction et commentaire du traité de Shitao datant du début du XVIIIe siècle, et la vie et l'œuvre de Shu Renshan, peintre et fou, ouvrage d'histoire de l'art qui arracha l'oubli un peintre oublié et qui fut couronné par le prix Stanislas Julien, la plus haute récompense existant dans le domaine de la sinologie. Mais en 1971, Simon Leys se substitue à l'érudit Pierre Ricmans en publiant un ouvrage iconoclaste et pourtant très savant, Les habits neufs du président Mao. Il y dénonce avec un grand courage, car le livre paraît en pleine période de maolâtrie occidentale, la réalité de la révolution culturelle et plus largement du régime communiste chinois. Après ce livre, il ne sera plus possible de regarder la Chine communiste avec les illusions qui ont déjà caractérisé l'indulgence des intellectuels occidentaux pour Staline, puis pour ses épigones plus lointains, donc moins connus. Simon Leys complète cette réflexion décapante sur la Chine par deux autres ouvrages, « Ombre chinoise » et « Images brisées ». Cette trilogie, traduite dans la plupart des langues de la planète, représente le plus important effort de réflexion au vrai sur la Chine contemporaine qui ait été publiée depuis qu'elle est devenue communiste. Czesław Miłosz, qui mieux que quiconque a su réfléchir au phénomène totalitaire, souligne justement l'importance de cette démolition de mythes mensongers par un expert qui connaît à la perfection la culture et le peuple chinois. Dans la même ligne de pensée, Simon Leys a consacré sa réflexion à l'un des autres esprits les plus courageux du siècle, Orwell ou L'honneur politique, publié en 1984. Cet ouvrage témoigne de l'ampleur de la pensée et des curiosités de Simon Leys. Le sinologue et le polémiste s'y montrent aussi écrivain et philosophe, dont la pensée est proche de Simone Weil et de T.S. Eliot. Il s'intéresse ici aux effets de l'altération du langage, à sa réduction à des clichés, phénomène de ce siècle, pour conclure que la destruction de la pensée elle-même en est une conséquence inéluctable. Le savant sinologue, le penseur, est aussi un essayiste auquel on doit deux ouvrages remarquables où Simon Leys partage avec ses admirateurs, dont le nombre ne cesse de grandir à travers le monde, ses bonheurs et ses curiosités littéraires. L'ange et le cachalot, publié en 1998, est consacré à la littérature du XXe siècle. Il y prend en premier lieu Malraux pour cible dans un chapitre féroce. Prolixe en décrivant les défauts et les ridicules de Malraux, Simon Leys, qui est un homme généreux, lui reconnaît cependant le courage et l'absence de médiocrité. Comment ne pas évoquer aussi, parmi tant de pages savoureuses, celle qui décrit la rencontre de Proust et de Joyce dans un taxi et leur conversation consacrée à un unique et passionnant sujet, faut-il ou non fermer les fenêtres de la voiture ? Protée, dieu marin des Grecs qui échappait à ses adversaires en changeant de forme, a inspiré Protée et autres essais publiés en 2001. Simon Leys y réfléchit au rapport de Don Quichotte et de son créateur, montrant comment le premier, en élargissant la réalité pour rejoindre son rêve, a échappé à son rêve, mais aussi il rend vie à Victor Hugo, essayant de s'orienter à travers les jugements contradictoires portés sur un génie unanimement salué ou sur celui qu'on a aussi appelé l'outre gonflé de vent. Mais c'est surtout Gide qui retient l'attention de Simon Leys dans un portrait cruel et précis sous la forme d'un abécédaire et qui s'achève sur le mot « vérité ». Simon Leys, on le voit, est fidèle à lui-même. Il faut enfin évoquer deux œuvres de fiction de cet écrivain si fécond et divers. La mort de Napoléon, publiée en 1986, témoigne que l'auteur est aussi à l'aise dans la langue et la culture anglaise qu'il l'est dans celle de la Chine et de la France. Ici, c'est un grand écrivain de langue anglaise qui se manifeste et les nombreuses et prestigieuses récompenses littéraires attribuées à ce livre dans le monde anglo-saxon témoignent que c'est ainsi qu'il y est perçu. Les naufragés du Batavia, sous-titré fort éloquemment « Anatomie d'un massacre », est le récit d'un naufrage en 1629 d'un navire hollandais au large de l'Australie. Simon Leys y relate l'aventure épouvantable des rescapés du naufrage tombé sous la coupe d'un démon, apothicaire de son état d'ailleurs, qui les massacre tous au nom d'une utopie confuse du bonheur. En ridiculisant le mythe du bon sauvage, Simon Leys, dans son style éblouissant et féroce, poursuit ici encore son combat contre les idéologies du paradis sur terre qui ont produit les plus effroyables horreurs du XXe siècle. Mais la Chine ne quitte jamais Simon Leys, ou Pierre Ryckmans, s'ils sont ici réconciliés, et rythme toute son existence autour de Confucius. On ne peut oublier à cet égard ses remarquables entretiens sur Confucius, publiés en 1987 chez Gallimard. Pour conclure, comment décrire cet esprit aux facettes multiples ? Savant sinologue, polémiste, critique littéraire de grande qualité, historien de l'art et écrivain d'un style élégant dans toutes ses manifestations. Protée, c'est peut-être le troisième nom de Simon Leys. Mais Simon Leys est surtout l'incarnation de la liberté de pensée et du courage intellectuel. Dans toute son œuvre, il montre une très haute conception de la mission morale de l'historien, de l'intellectuel, qui est avant tout de faire œuvre de vérité.
Merci, Madame Carrère-Dancausse. Monsieur Simonguez, si vous voulez bien venir à la tribune. Avant de lever cette séance et de vous inviter à nous retrouver en salle Comtesse de Caen, dans le pavillon occidental du Palais de l'Institut, je tiens à redire au nom de l'Institut nos très vives félicitations aux lauréats des différents prix et nos sentiments de gratitude à l'ensemble des mécènes créateurs de fondations abritées. D'autres prix, comme vous avez peut-être pu le constater dans le document qui vous a été remis, d'autres prix seront d'ailleurs remis dans les mois qui viennent par les différentes académies au nom de l'Institut. La séance est levée.
C'était donc la séance solennelle de remise des Grands Prix de l'Institut de France le mercredi 15 juin à 15h, précisément. Depuis 15h, nous étions en direct depuis la coupole de l'Institut, une cérémonie présidée par Jean Prodromides, président de l'Institut et de l'Académie des Beaux-Arts. Monsieur le chancelier de l'Institut de France, Pierre Messmer, a introduit cette séance au cours de laquelle ont été remis donc les prix aux nombreux lauréats. Vous pouvez retrouver l'intégralité des textes prononcés lors de cette cérémonie officielle, séance solennelle sous la coupole, sur le site internet de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr, et Canal Académie, que vous écoutez actuellement, la première radio académique francophone au monde, vous proposera ultérieurement tout au long de cette semaine de retrouver la rediffusion de cette séance intégralement. Merci de votre attention. Excellente journée à l'écoute des programmes de Canal Académie.
Écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.